LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Avant même que certains hommes envisagent l'utilisation thérapeutique du sang, il y a eu toute une mythologie autour du sang et du rajeunissement. On retrouve notamment dans les métamorphoses d'Ovide, la demande de Jason qu'il a faite à Médée, puisque Jason voulait que Médée rajeunisse son père, qui était mourant, donc son père Aeson.
Le sang de la veine. Marie Chartron, Anne Fleury. Quatrième épisode, soigner, commercer.
Et donc Jason demandait à Médée qu'on lui retire ses années de sa vie pour les redonner à son père. Donc Médée a refusé de retirer ses années de vie à Jason. Mais par contre, elle a entamé un processus de saignée et de transfusion à partir de différents sucs végétaux et animaux. Et là, Aeson aurait rajeuni d'une quarantaine d'années.
Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y a beaucoup d'avancées scientifiques qui ont lieu concernant le sang. Il y a également la découverte de l'hémoglobine qui va faire du sang un élément vraiment prisé de la pharmacopée, des pharmaciens. Donc on trouve du sang et des dérivés de sang et de viande dans la plupart des produits pharmaceutiques à la mode à l'époque.
Maëva Raffron.
Il y a également la pratique des bains de sang préconisée par Raspail. Pour tout ce qui concernait les infections au mercure. Ça se faisait aux abattoirs, notamment les abattoirs de la Villette, donc au matin, puisque les exécutions mises à mort des animaux avaient lieu le matin. Il y a un journaliste qui évoque même une danseuse espagnole célèbre qui viendrait rincer sa cheville dans le flot de sang des abattoirs parce que sa cheville est douloureuse. C'est vraiment une pratique qui mélange beaucoup de sphères sociales, en fait. Donc il y a quand même la queue, il y a quand même des personnes qui attendent. Après, les bains de sang, ils sont préconisés dans divers traités de médecine, mais dans la presse, c'est surtout l'engouement des buveurs de sang, et d'ailleurs, on parle surtout des buveuses de sang, puisque, comme je le rappelle, ce sont surtout des femmes.
Au XVIe siècle, on a eu Erzsébet Báthory, qui était la comtesse sanglante, réputée pour boire du sang de jeunes vierges pour acquérir l'immortalité.
Jean-Baptiste Thibert, biologiste médical.
Tout ça pour nous dire qu'on a toujours eu ce lien entre rajeunissement, immortalité, sang, et que ce lien n'est pas qu'un lien du passé, puisque dans le passé assez proche, on a notamment en 1930 des publications médicales qui rapportent des contaminations par la syphilis de patients qui étaient hospitalisés dans des cliniques, qu'on appelait des cliniques de jouvence. C'était des cliniques de rajeunissement où on transfusait à ces patients du plasma de donneurs plus jeunes.
Il serait assez tentant de se lancer dans un grand bain d'hémoglobine pour explorer toutes les thérapies sanguines plus ou moins fantaisistes entreprises depuis 5 siècles. Ou encore de contacter toutes les cliniques privées qui fleurissent dans certains pays et se proposent, à prix d'or bien sûr, de nettoyer votre sang, voire de le renouveler. Ce qui implique, si on s'en tient au cliché, que vous soyez un sportif dopé ou une star abîmée. Mais voilà, il est plus raisonnable de s'en tenir à des sujets plus sages et qui néanmoins ont bouleversé l'approche thérapeutique du sang. Plus raisonnable donc de nous plonger dans l'hématopoïèse, autrement dit la fabrication des cellules sanguines, et d'explorer comment le sang a acquis progressivement un statut de médicament et dans quelle économie il s'insère.
Vous avez réalisé la première greffe de cellules souches de sang de cordon, Eliane Gluckman. Vous êtes professeur d'hématologie, on dit, ou hématologue ? Qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Hématologue, je dis. J'ai dirigé pendant plus de 40 ans le service de greffe de moelle osseuse à l'hôpital Saint-Louis. Et j'ai dirigé le département d'hématologie de cet hôpital qui est spécialisé en hématologie. L'hématologie est un domaine très vaste, puisqu'il concerne, c'est une spécialité qui s'intéresse aux maladies du sang et de la moelle osseuse. La moelle osseuse est à l'intérieur de nos os et c'est l'usine à fabriquer les globules. C'est un domaine qui est tellement complexe qu'on est devenu hyper spécialisé. Il y a ceux qui connaissent les leucémies, qui sont des maladies malignes des globules blancs. Il y a ceux qui s'occupent des globules rouges, les anémies, quand on manque de globules rouges. Il y a ceux qui s'occupent de certaines maladies de l'immunité. Il y a les maladies dites d'auto-immunité. Il y a les maladies immunologiques. Il y a les lymphomes, ceux qui s'occupent des maladies héréditaires de l'enfant, ceux qui s'occupent de transfusion, ceux qui s'occupent de transplantation ou de maladies de la coagulation. Les connaissances dans ce domaine ont explosé depuis une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de travailler avec deux prix Nobel de médecine. Mon patron, mon premier patron, qui était ici à l'hôpital Saint-Louis, c'est pour ça que j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Louis, était Jean Dausset, prix Nobel de médecine, sur la découverte du système de compatibilité tissulaire, ou système HLA. Et c'est grâce à lui, quand j'étais encore jeune médecin, que je suis partie aux États-Unis travailler à Seattle avec le professeur Don Thomas, qui lui aussi est prix Nobel de médecine pour la transplantation médullaire, on a travaillé ensemble, pour ses découvertes sur les transplantations de moelle. Et c'est grâce à eux qu'en revenant à Paris des États-Unis, que le professeur Jean Bernard m'a demandé de mettre en place une unité de greffe de moelle qui, à l'époque, n'existait pratiquement pas en Europe. Et on s'était spécialisé sur les aplasies médullaires, maladie de Fanconi, c'est-à-dire des patients dont la moelle s'arrêtait de fonctionner, surtout des enfants. On faisait beaucoup de pédiatrie. Et en étudiant ces aplasies médullaires, on a vu qu'il y avait une certaine proportion des patients qui avaient une anomalie génétique qui empêchait leur moelle de fonctionner, qui faisait que les cellules étaient détruites, mais qu'en même temps, elles avaient perdu la capacité de se réparer. On a tous des mécanismes de réparation de nos gènes. Dans cette maladie, il n'y avait pas. Donc, on avait mis en place un programme particulier de greffe pour ce type de patient. C'était purement français, parce que ces travaux n'avaient pas été tellement reconnus aux États-Unis, puis un truc qui venait de France, c'est jamais bien. Et donc, on a continué à travailler avec d'excellents résultats. Et donc, en 1987, j'ai eu un appel téléphonique d'un Américain que je connaissais, qui s'appelle Brox Meyer, qui travaillait au laboratoire à New York, au Sloan Kettering. Et il m'a demandé si j'étais intéressée par une greffe de sang de cordon ombilical. Je lui dis « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « Mais on s'est aperçu que dans le sang prélevé du placenta, il y avait beaucoup de cellules souches similaires aux cellules de la moelle osseuse qui ont une grande capacité de prolifération. Pourquoi il avait fait cette étude ? C'est à cause de Tchernobyl. » Tchernobyl, accident d'irradiation, on va tous mourir, ça va détruire notre moelle osseuse, il faut trouver un moyen de garder nos cellules quelque part à l'abri des radiations au cas où. Pour une greffe, à ce moment-là, pour soi-même. Donc, des investisseurs américains l'avaient contacté pour ça, et il avait commencé à regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces cellules. Et il a vu effectivement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cellules qui pouvaient remplacer la moelle.
Pourquoi aller voir directement le placenta ? Quelle idée ?
Mais parce que c'est là que sont les cellules des nouveau-nés. C'est là le placenta et la poche nourricière pendant la grossesse.
L'embryon, à l'origine, c'est une cellule. Puis après, il se divise. Et en fait, au cours des premières phases de division, les cellules, c'est toutes les mêmes. C'est ce qu'on appelle les cellules totipotentes. Et elles ont la capacité de se différencier en toutes les cellules de l'organisme.
Fanny Chambon, doctorante en épistémologie.
C'est ce qui fait qu'on va avoir une cellule de peau, une cellule de foie, une cellule de deuil, à partir d'une cellule unique en fait. Et dans ces cellules totipotentes qui deviennent d'autres cellules, il y a des cellules souches qui restent en fait, qui reste dans le corps humain jusqu'à la mort d'un individu. Et notamment, c'est notamment le cas des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules, elles permettent le renouvellement constant du sang. C'est une des propriétés qui est absolument fascinante dans le sang, c'est que vous vous coupez, vous perdez du sang, et ben, enfin le sang, il se régénère, en fait. Un globule rouge, ça vit 120 jours à peu près. Et un globule blanc, ça vit 4-5 jours. Donc, il faut les renouveler, sinon le sang, il meurt.
Donc le sang, ce qu'on appelle le sang du cordon ombilical, c'est du sang qu'on prend après la naissance et qui est les restes de sang dans la poche nourricière. Donc, Brox-Meyer, il a vu qu'il y avait beaucoup de cellules, qu'elles étaient jeunes, en pleine forme, qu'elles avaient des capacités de prolifération très supérieures d'ailleurs à une moelle adulte. Et là, une fois qu'il avait fait ça, comment montrer que ça sert à quelque chose dans la vraie vie ? Il n'allait pas attendre un deuxième Tchernobyl. Donc, il fallait trouver un modèle clinique. Et il se trouve que dans son laboratoire, à côté, il y avait une personne qui travaillait justement sur cette maladie qu'on appelle maladie de Fanconi et qui connaissait très bien nos travaux. Et donc, on avait mis au point un protocole de greffe qui n'était pas utilisé aux États-Unis. Donc, l'idée qu'elle avait eue avec Brox-Meyer, elle s'appelait Arline Auerbach, était de dire, voilà, pour bien montrer que ce sang de cordon peut être utilisé pour la transplantation, ce que nous allons faire, c'est quand il y a une famille avec cette maladie, maladie très grave, hein, qui tue, si la mère est enceinte, on fait un prélèvement chez la mère pour savoir si le fœtus est atteint ou pas par la maladie, et à la naissance, on prélève le sang de cordon qui pourra être utilisé pour la greffe. Ce qui fut fait sur une dizaine de familles. Ensuite, ils se sont posé la question, où fait-on la greffe ? Ils ont demandé à quelques pédiatres hématologues aux États-Unis. Ils n'ont pas voulu, en disant, mais non, ce n'est pas intéressant. De toute façon, ils meurent tous. Parce que c'est vrai, ils n'avaient pas notre système. Donc, il m'a appelé pour me demander si je voulais la faire. Je lui ai dit, pas de problème, tout de suite, parce que j'avais déjà fait des greffes avant de foie fœtale et je savais que c'était faisable et je connaissais bien la littérature de ces choses. Bien, cette première greffe de sang de cordon ombilical, elle a concerné un petit garçon qui à l'époque avait 5 ans et qui était atteint d'une maladie de Fanconi, d'une aplasie médulaire. Sa mère était enceinte d'une petite sœur, laquelle avait été diagnostiquée pendant la grossesse comme ne comportant pas l'anomalie génétique responsable de la maladie. Donc elle était saine et on avait vu en plus qu'elle était compatible avec son frère. Ce qui fait que ce sang de cordon ombilical, à sa naissance, après l'accouchement, a été prélevé et analysé et congelé à moins 180 degrés. Donc on pouvait le garder indéfiniment. Cette famille a donc voyagé à Paris. Le cordon a voyagé dans un conteneur congelé à moins 180 degrés. Il a voyagé d'ailleurs dans un siège passager. Vous voyez aujourd'hui, mettre un gros tonneau avec de la fumée qui sort sur un siège passager, je crois que ça ne se fait plus. Mais c'est ce qu'on a fait. Et on a donc décongelé ce sang de cordon ici, on a préparé la greffe. Les cellules ont été injectées comme on fait d'habitude, parce que ça représente, c'est dans un sac, ça ressemble à du sang. Donc ça a été injecté par voie intraveineuse. Ces cellules ont circulé et ont repeuplé la moelle osseuse. En 3 semaines, 1 mois, les cellules avaient recommencé à fonctionner. Il a pu sortir de l'hôpital. Et maintenant, Matthew, c'est son nom, il a maintenant presque 40 ans et il va bien.
Le sang est un tissu comme tous les tissus. Mais ces cellules ne sont pas, comme celles des autres, immobilisées par une charpente. Elles sont suspendues dans un liquide visqueux, le plasma. Le sang est un tissu mouvant qui s'insinue dans toutes les parties du corps. il porte à chaque cellule la nourriture dont elle a besoin. En même temps, il sert d'égout collecteur aux produits de déchets de la vie tissulaire. Mais il contient aussi des substances chimiques et des cellules capables d'opérer des reconstructions organiques dans les régions du corps où elles sont nécessaires. Dans cet acte étrange, il se comporte comme un torrent qui, à l'aide de la boue et des troncs d'arbres qu'il charrie, se mettrait à réparer les maisons placées sur sa rive. Alexis Carrel, L'homme, cet inconnu, 1935.
Avant de devenir un eugéniste controversé, prêt à certaines compromissions à la fin de sa vie, Alexis Carrel est un chercheur tout entier concentré sur l'étude des cellules sanguines et rivé à ses éprouvettes. Céline Chérissy est maître de conférences en épistémologie et historienne des sciences. Elle a travaillé sur les archives de ce scientifique.
Alors, c'est amusant, L'homme, cet inconnu, j'en dis quand même deux, trois mots, parce que dans L'homme, cet inconnu, il va de la société à la vieillesse, à la place de l'humain dans la société, à la circulation sanguine, au sang comme élément liquide fondamental du milieu intérieur, jusqu'à l'idée que la pensée elle-même, c'est la fille de la physiologie. Alors, avant Alexis Carrel, il y a des travaux sur la culture, sur les hémocultures, mais c'est Alexis Carrel qui va travailler sur la transplantation des cellules sanguines et sur cette idée que le sang est non seulement l'ingrédient principal du milieu intérieur, mais également, il va travailler sur cette idée que si on décompose le sang, ses différents éléments, globules rouges, globules blancs, hématocrites, hématies, alors on peut en faire varier les éléments, cultiver le sang, se servir du plasma sanguin pour cultiver des cellules et avoir à la fois un sang thérapeutique et un sang physiologique. Et on a cette idée que l'ingénieur du vivant, c'est celui qui, en utilisant les éléments du sang, en le techniquant, c'est-à-dire l'extraire de son milieu naturel pour en faire un objet sur lequel on intervient, puisse comme ça travailler sur un sang qui peut être après transfusé, redonné aux blessés de guerre, etc. Alexis Carrel, c'est un jeune homme qui a très mauvais caractère et qui a tendance à se brouiller avec toute sa hiérarchie universitaire et médicale. Il naît en 1873 et il meurt en 1944. Il part s'installer aux États-Unis et il va travailler pour l'Institut Rockefeller. Et c'est avant tout un savant lyonnais, français, qui fait toute sa carrière outre-Atlantique et aux États-Unis et qui va revenir deux fois en France pendant les deux guerres. En 1912, il a le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses travaux sur la suture vasculaire et la transplantation de cellules sanguines. Alors, pour travailler sur la transplantation de cellules sanguines, il lui faut en connaître les éléments, les ingrédients du sang. Tout un questionnement comme ça sur la nature du sang. Mais c'est un sang décomposé. Finalement, avec quoi travaille Alexis Carrel ? C'est la partie liquide du sang avec le plasma sanguin. Pourquoi ? Parce que le plasma sanguin lui sert de milieu, au sens où on va planter quelque chose dans un milieu, pour faire ses premières cultures cellulaires. C'est à partir de 1910 qu'il va mettre au point des protocoles. Il va donc immerger dans ce plasma sanguin un fragment d'un tissu prélevé, sans le léser. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 24-48 heures ? Car elle se rend compte que les cellules sont sorties du tissu implanté et se sont multipliées. Et il va nourrir ces cultures et montrer que, de la même façon qu'on nourrit un être vivant, on peut nourrir une culture, un ensemble de cellules sanguines, un ensemble de cellules vivantes. Et il va montrer donc que ces cultures peuvent être conservées très longtemps jusqu'à récupérer une fonction. Donc c'est la fameuse expérience 715. C'est des fragments embryologiques de cœur de poulet qui va récupérer des fonctions pulsatiles. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en prévenant les infections, en nourrissant ces cultures et en y ajoutant du plasma de croissance et des tissus embryologiques, il a provoqué quelque chose qui, à condition d'être surveillé comme le lait sur le feu, peut perdurer bien plus longtemps que dans l'organisme où les organes sont usés par les interactions. Ce qui va lui permettre de travailler ce qu'il appelle la notion de milieu préventif, C'est-à-dire comment prévenir la mort des cellules, et finalement, avec cette vieille idéologie de comment prévenir la mort, comme il le dit lui-même, la citation est approximative, mais elle est assez proche, le tout n'est pas de vieillir, c'est de vieillir en bonne santé. Le corps, c'est la machine dont on peut remplacer les pièces. Ça, c'est le mécanisme cartésien. Mais on a surtout cette idée qui se détache chez Carrel et qui rejoint Claude Bernard. Le corps humain, c'est une machine dont on peut réparer les pièces. Si on prend un rat malade et dans un milieu stérile, on le soigne avec une solution de Ringer et on le retransplante à la personne et la personne est soignée avec son propre rein. Si vous soignez quelqu'un en soignant son organe, à l'extérieur du corps et à l'extérieur de l'organisme. Alors, il n'y a plus de problème de compatibilité. Alors, aujourd'hui, conserver le vivant, les biobanques, conserver des échantillons cellulaires, des hémocultures, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît finalement assez familier. Mais il faut voir que là, on est sur quelqu'un qui expérimente entre 1910 et puis 1940.
Jean-Baptiste Thibert, je suis biologiste médical de formation et puis j'ai un parcours complémentaire en droit et éthique. Le sang a progressivement pu acquérir une dimension thérapeutique. On a une nouvelle forme de circulation du sang, un sang qui avant circulait en soi, support de vie intime, il en devient également support de vie potentiel pour autrui. Et à partir de là, le droit a été contraint de nommer ce sang qui circulait. Et face à cette nouvelle circulation, le droit a été embarrassé, puisque ça ne correspondait pas à la position qui est toujours dominante actuellement en France, de dire que le corps est la personne, on est sur une transcendance du corps et de la personne, c'est une seule et même chose, le corps est protégé au même titre que la personne. Et pourtant, force est de constater qu'on avait une disjonction là, avec un sang qui était sorti du corps, progressivement qu'on était capable de conserver et dont on s'est rendu compte que potentiellement il pouvait transmettre des maladies, éventuellement tuer le patient, tuer le donneur parfois. Donc il a fallu nommer sur le plan juridique ce sang. Et c'est dans cette perspective que le sang, personne, est devenu un sang-chose. Mais finalement la vraie question qui se pose derrière tout ça, c'est quel type de chose ? Est-ce que ça fait partie de ces choses qui sont non appropriables, qui appartiennent à tous, les choses communes ? Ou alors, est-ce que ça rentre dans la catégorie des marchandises que l'on peut librement échanger sur le commerce ? Et c'est là que je rentrerai par la deuxième approche, c'est-à-dire par le droit plus dur, je dirais, par les lois, en rappelant quelle était la philosophie du législateur français en 1952. Puisque la France s'est dotée d'une loi relative à la transfusion sanguine dès le 21 juillet 1952, ce qui était une première à l'échelle européenne et voire même à l'échelle mondiale, je crois. Et la volonté du politique et du législateur de l'époque était clairement de maintenir le sang en dehors du commerce marchand. Il ne fallait pas que le sang rentre dans la catégorie des médicaments, puisqu'on avait des lois relatives aux médicaments et à la pharmacie. Et donc là, au regard de cet élément qui vient du corps humain, qui vient d'un geste altruiste, au regard de la dignité humaine, le sang ne pouvait être considéré comme une marchandise et un médicament.
Dans les années 60-70, on a commencé à développer des technologies de prélèvement qu'on appelle paraphérèse et qui permettaient effectivement de ne récupérer que du plasma ou que des leucocytes ou que des plaquettes, quoi. À partir du moment où on commence effectivement à pouvoir séparer les différents produits sanguins, on peut commencer également à les valoriser de manière différente et on peut rentrer effectivement dans des logiques qui sont un peu plus industrielles. Dans le processus de fractionnement du sang, donc en fait on va distinguer d'un côté des produits qu'on appelle des produits labiles, qui sont des produits très peu stables, hein. Globalement c'est les globules rouges, les culoglobulaires, donc même si on sait les conserver, ça se conserve quand même pas indéfiniment longtemps. Et il se trouve qu'en France, c'était des produits qui étaient très très peu valorisés. Alors qu'en réalité, en termes de coût de revient, c'est sans doute ce qui est le plus cher à obtenir, quoi. Et de l'autre côté, donc, on a des produits stables, donc le plasma, et puis plusieurs fractions plasmatiques, l'albumine, et ensuite des facteurs de coagulation, donc le facteur 8 et le facteur 9, quoi. Et en fait, c'est sur ces produits plasmatiques que la valorisation va être la plus importante. On va chercher à gagner et on va fixer surtout les prix les plus élevés, en fait, dans les années 60-70.
Sophie Chauveau est historienne. Ses travaux portent sur l'organisation de la transfusion, sur les processus d'industrialisation à l'œuvre dans le traitement des produits sanguins et sur l'affaire du sang contaminé.
L'affaire du sang contaminé, c'est quand même la crise qui va faire basculer l'organisation de la transfusion sanguine qui était à base associative vers une organisation à la fois plus industrielle et je dirais plus structurée, quoi. À partir des années 80, lorsque se diffuse le virus du sida, ce virus donc va infecter un certain nombre de poches de sang. La propagation va être d'autant plus accentuée qu'on avait l'habitude, notamment pour la préparation d'un certain nombre de dérivés sanguins, de constituer ce qu'on appelait des poules de poches de sang, c'est-à-dire de mélanger un grand nombre de poches de sang ensemble. Et donc, à partir du moment où on avait une poche contaminée, en fait, on contaminait l'ensemble du lot. De ce fait, on a pu ainsi contaminer un certain nombre de malades, au premier rang desquels, d'ailleurs, on va retrouver les hémophiles, quoi. Alors, la prise de conscience de ce risque, bon, elle va demander du temps. Elle va, en plus, bon, être à l'origine d'un certain nombre de tensions entre médecins de la transfusion qui vont se diviser sur le fait que l'on écarte du don du sang certaines populations à risque. Et donc là, l'État va quand même devoir finir par prendre un peu ses responsabilités, y compris en termes d'organisation de la collecte, et regarder d'un petit peu plus près, effectivement, comment s'organisent ces activités, et en fait, toute cette filière des produits sanguins.
Pour continuer sur cette question du statut juridique, qui en est arrivé à une question plus peut-être fondamentale, celle du médicament, il y a eu, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, deux enjeux particuliers et synergiques. Il y a eu un premier enjeu politique européen. On le sait, l'Union européenne, l'ex-Communauté européenne, c'est une entité économico-politique qui a pour vocation de favoriser les échanges marchands, les échanges économiques, dans le but d'atteindre une zone de prospérité et donc d'éviter de nouvelles guerres. Et dans cette philosophie économique et politique, la santé n'avait pas particulièrement de place, mais par contre, le médicament avait sa place, puisque c'est une véritable marchandise qui se vend et à partir de laquelle on peut faire un profit. Et en 1989, il y a une directive européenne qui était importante et elle devait être transposée dans le droit français en 1993. Cette directive européenne prévoyait notamment que les produits sanguins dits stables, l'albumine, les facteurs de coagulation, deviennent des médicaments. On va retrouver notamment aussi les immunoglobulines, les anticorps.
Alors, l'arrivée du secteur privé dans la filière du sang, elle remonte au tout début des années 90. Les choses vont se jouer en plusieurs temps. La réorganisation donc de la collecte de sang va d'abord être portée par une structure qui va avoir une durée de vie assez courte, qui est l'Agence française du sang. Elle va imposer la structuration d'un certain nombre de plateaux techniques pour effectivement la préparation des dérivés sanguins, de manière à mailler correctement l'ensemble du territoire et, je dirais, d'être un petit peu plus rationnel et un petit peu plus rentable dans cette organisation-là. Et le choix qui va être fait, c'est en gros de dire les produits dits plasmatiques, on va les confier effectivement au secteur privé, donc ça va être notamment le laboratoire français du fractionnement, le LFB, pendant que le secteur public, donc l'Agence française du sang, qui viendra ensuite l'établissement français du sang, va, elle, conserver la responsabilité de la préparation des produits labiles.
Et ce contexte, il est vraiment important, puisqu'à partir de là, on a eu deux filières indépendantes. Une fondée sur la loi de 1952, et toujours les mêmes critères avec les produits sanguins labiles, et l'autre, celle des médicaments dérivés du sang, qui du coup basculait dans un registre marchand et commercial. Ça a des impacts, notamment en termes d'objectifs de santé publique. Si on prend la question de l'autosuffisance en produits sanguins, on en parle beaucoup, l'autosuffisance, c'est de dire à tout moment, sur le territoire, je dois avoir suffisamment de produits sanguins pour transfuser les patients. Mais cette autosuffisance, quand on la pense en termes de médicaments et de son corollaire du commerce marchand, elle est tout à fait différente. Puisque qui dit médicament dit marché international. Pour la fabrication des médicaments dérivés du plasma, on a toujours besoin de plasma. On a toujours besoin de donneurs. Ces donneurs de plasma, on peut les retrouver dans tous les pays du monde, ou pas. Ensuite, certains pays vont pouvoir fabriquer leurs médicaments à partir du plasma prélevé sur leur pays, ou pas. Parfois, ce plasma va être envoyé ailleurs pour être traité dans un autre pays. Donc on voit déjà là qu'on a des volumes de plasma qui vont naviguer de continent à un autre. Et après, une fois que ces médicaments sont fabriqués à partir du plasma, ils vont renaviguer à l'échelle internationale pour bénéficier finalement aux plus offrants. Et donc en termes d'accessibilité aux soins, la question se pose de façon tout à fait différente entre des produits sanguins labiles, où là on a une autosuffisance nationale qui a un sens, et des médicaments dérivés du sang, finalement qui doivent répondre aux règles du droit de la concurrence, et donc aux appels d'offres, au marché public, etc. À titre d'exemple, les patients français sont transfusés simplement avec 35% des anticorps fabriqués par le LFB en France. Les autres médicaments viennent d'autres industries pharmaceutiques et avec des donneurs étrangers.
Bruno Danick, médecin.
C'est certain que dès lors que l'idée d'utiliser des éléments du corps humain, et ça a commencé par le sang, a émergé, la question s'est posée du risque de l'exploitation de certains êtres humains pour en soigner d'autres. Très récemment, des fake news ont circulé. Les Russes faisaient croire que les Ukrainiens prélevaient des enfants pour transfuser les soldats sur le front. Donc, discréditer son ennemi en utilisant l'idée de l'exploitation est une pratique qui finalement existe depuis le 15e siècle et existe encore aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que même si il faut être pragmatique et, comme je l'ai dit, les médicaments dérivés du sang, aujourd'hui, seul le système basé sur la rémunération permet de fournir à tous les patients qui en ont besoin leur traitement. Il faut le reconnaître. Donc il faudrait développer le don bénévole si on voulait vraiment avoir un monde idéal. Mais attention, et la future réglementation européenne demande à juste titre de surveiller la santé des donneurs dès lors qu'on les prélève trop souvent en plasma. Parce que ce qui s'est passé au moment de la crise sanitaire aux États-Unis, c'est que l'administration des douanes américaines a décidé de ne plus autoriser les Mexicains à traverser la frontière avec un visa temporaire pour aller vendre leur plasma, en considérant que s'ils étaient rémunérés en y allant deux fois par semaine, c'était un travail. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça représentait 15% de la collecte de plasma aux États-Unis, qui elle-même représente plus de 60% de la collecte de plasma utilisée dans le monde. Et les organismes concernés ont réussi à faire plier, pour le moment, la juridiction américaine pour être autorisée à continuer à collecter ces personnes, contre lesquelles on voulait, il y a encore quelques années, construire un mur. Mais finalement, qu'on est bien content de voir traverser le Rio Grande pour vendre leur plasma.
Donc ils viennent...
Ce sont des gens... vous savez, la rémunération, elle n'est efficace que quand elle s'accompagne d'un nombre de dons importants. On propose aujourd'hui aux États-Unis jusqu'à 1 000 $ sur un mois à des personnes qui acceptent de vendre leur plasma deux fois par semaine à raison d'1 litre pour chaque prélèvement.
Deux fois par semaine.
Deux fois par semaine, donc 8 dons dans le mois et on leur propose 1000 dollars. 1000 dollars, c'est un salaire. Le salaire moyen est inférieur à ça aux États-Unis. Donc évidemment que la rémunération, quand elle s'exerce de cette façon, s'adresse à des gens qui ont besoin d'argent. Et le risque, c'est que ça puisse avoir un impact sur leur santé, parce que prélever même du plasma, même si ça se reconstitue rapidement, oui, l'eau se reconstitue rapidement, mais quand on prélève deux fois par semaine et qu'on est amené à prélever entre 50 et 100 fois par an des personnes, on abaisse leur taux de protéines. Et pour peu que ce soit des gens qui vivent dans des conditions défavorisées et qui sont déjà vulnérables, oui, ça peut avoir un impact sur leur santé. Même si certains diront que ça n'est pas démontré.
Au-delà même de toute question prélèvement éthique, enfin rémunéré ou pas rémunéré du plasma, se pose la question de l'accessibilité aux soins. Hein, parce que finalement, la règle qui va guider la mise à disposition des traitements, ça va être la réponse des industriels aux appels d'offres.
Jean-Baptiste Thibert.
Et un industriel qui considérera que les tarifs pratiqués dans un pays ne sont pas assez élevés ne répondra pas. Et on a eu des cas en France, même très récents, de spécialités pharmaceutiques, de médicaments dérivés du sang qui n'étaient plus mis à disposition des patients parce que les tarifs français n'étaient pas assez élevés. Les seuls laboratoires qui sont encadrés, ce sont des laboratoires comme le LFB en France, où là c'est un choix politique d'interdire les dividendes et les profits des ventes doivent être réinvestis dans la recherche et la fabrication de médicaments rares notamment. Mais autrement, on est vraiment sur un domaine dérégulé. Et quand on repense à l'humanité derrière le don et du besoin des patients, ça souligne finalement une forme de patrimonialisation ordinaire d'une chose non ordinaire, le sang.
Le sang a donc un prix, ou disons plutôt plusieurs prix. Pour les produits labiles, en France, un prix de cession qui couvre la collecte et la conservation. Dans d'autres pays, s'y ajoute la rémunération ou la compensation versée au donneur. Quant aux médicaments, le cours du sang transformé est nettement plus opaque et soumis aux lois d'un marché pas toujours solidaire. Et dans ce système complexe, on peut se demander si le sang de cordon ombilical, c'est-à-dire un sang qui n'est plus à l'intérieur de la mère ni du nouveau-né, a un statut à part.
La question du statut juridique du sang de cordon, c'est une question également particulière, qui souligne qu'il n'y a pas d'universalité de réponse entre les différents éléments et produits du corps humain. C'est-à-dire que ce qu'on a décrit pour le sang n'est pas valable pour les autres éléments et produits du corps humain. On peut vendre ses cheveux, on peut vendre ses fanères, c'est autorisé dans le droit français. Et depuis, l'utilisation thérapeutique de ce sang de cordon ombilical pour les greffes, il a été protégé au même titre que le sang, que les organes, que les cellules souches hématopoïétiques. C'est-à-dire que dans la perspective française d'un don dit bioéthique, le don ne peut se faire qu'après le consentement de la mère, de façon anonyme, de façon gratuite. Donc on se place dans la perspective d'un don donné pour quelqu'un d'autre. Alors de façon très exceptionnelle, on peut faire des dons intrafamiliaux quand on a un enfant malade au sein de la fratrie, mais on ne peut pas faire des conservations pour soi-même. Et donc ce sang, dès qu'il n'a pas d'utilisation thérapeutique, ce sang de cordon ombilical, quand il n'a pas d'utilisation thérapeutique, il en redevient un déchet opératoire. Donc en fait, son statut dépend de la finalité de son utilisation.
On était resté sur Tchernobyl.
Eliane Gluckman.
Et sur est-ce que c'est utile de garder ses propres cellules au cas où, pour un prélèvement qu'on appelle autologue et pas pour quelqu'un d'autre. Il y a eu une grande controverse, qui n'est toujours pas réglée d'ailleurs, et il y a eu, dès le début, des compagnies qui vendaient aux familles la possibilité d'utiliser, de stocker, pour un prix qui n'était pas très important d'ailleurs, en leur disant que ça pouvait sauver la vie de leurs enfants avec une publicité très importante. Nous, on a tout le temps été contre, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu une demande de brevet sur ces cellules On a été obligé de demander aux autorités européennes de refuser ce brevet.
Qui a demandé un brevet ?
Les Américains.
Qu'est-ce que ça leur permet ?
Ça leur rapportait de l'argent. Chaque fois que vous achetez un cordon pour une grève, vous leur donnez de l'argent. Et donc on a attaqué le brevet, on a gagné. Et ensuite, sur les banques privées, la loi en France est de dire que les produits sanguins sont gratuits et ne peuvent en aucun cas être commercialisés. Les temps changent, parce que maintenant, on commercialise beaucoup de produits cellulaires, de produits sanguins. Et donc, notre argument qui était il y a 20 ans, en ce moment, il tient mal la route. Parce qu'il y a beaucoup de produits d'origine sanguine qui sont utilisés pour un profit. Mais à l'époque, c'était pas comme ça.
Sylvie Lejean, je suis journaliste et chef de la rubrique Science dans le quotidien suisse Le Temps. J'ai commencé une enquête sur la banque de cellules souches de cordon ombilical Cryosave en 2019, après avoir été contactée par des familles qui avaient fait le choix de stocker les cellules souches du sang de cordon de leurs enfants dans cette banque privée. Il se trouve que il y avait énormément de suspicions et de doutes par rapport à la santé financière de cette entreprise. Les parents qui m'ont contactée étaient inquiets, d'autant plus qu'ils avaient reçu peu de temps avant une communication assez laconique de la part de l'entreprise, annonçant qu'en fait leur échantillon avait été déplacé sans leur consentement préalable en Pologne, dans une autre banque privée. Alors il faut savoir que le cadre légal en Suisse n'est pas très strict en la matière. Contrairement à la France, qui effectivement interdit les banques privées de cellules souches, en Suisse, c'est tout à fait possible pour une société privée de stocker des cellules souches de cordon ombilical. En fait, les banques privées n'ont qu'une seule obligation, c'est de s'annoncer auprès de Swissmedic, qui est l'Institut suisse des produits thérapeutiques, pour dire qu'elles existent, mais elles sont pas soumises au régime d'autorisation. Donc, quand Cryosave a décidé de déplacer ses échantillons en Pologne, ils avaient parfaitement le droit de le faire selon la législation suisse. Alors, Cryosave a signé des contrats avec environ 250 000 familles à travers toute l'Europe. En Suisse, on n'a jamais vraiment su combien de familles étaient concernées. Toutes ces familles, en fait, ont un peu été séduites via le même procédé. À savoir que la plupart du temps, elles sont tombées en fait sur des prospectus dans le cabinet de leur gynécologue qui, justement, faisait la promotion de la conservation des cellules souches de sang de cordon avec des promesses en fait à la clé sur un plan médical. Certaines étant avérées et d'autres n'ayant pour le moment aucun fondement scientifique avéré. C'est vrai que ces prospectus, quand on les lit, jouent énormément sur l'émotionnel, en disant aux parents, c'est l'occasion de faire quelque chose pour vos enfants au cas où il arrive un pépin de santé. C'est une forme en fait d'assurance finalement qui est proposée aux parents. Donc les promesses qui étaient faites sur ces dépliants annonçaient qu'on pouvait possiblement guérir l'autisme, le diabète ou encore des infirmités motrices et cérébrales grâce à ces cellules souches. Il y avait aussi l'aspect de médecine régénérative, mais il faut savoir qu'en fait toutes ces promesses n'ont aucun fondement scientifique. Pour l'heure, les seules indications des cellules souches de sang de cordon, c'est pour traiter en fait certaines formes de cancers hématologiques, comme les leucémies, les lymphomes ou les myélomes, ou pour d'autres maladies graves de la moelle osseuse. Il y a certaines indications qui sont en développement, notamment pour des maladies auto-immunes ou neurodégénératives, mais elles ne sont pas encore validées sur un plan scientifique. Ces prospectus jouent effectivement sur des promesses en les formulant d'une certaine manière qui n'est pas complètement mensongère, mais qui joue vraiment sur les faits et les mots. Par exemple, un dépliant de Cryosave annonçait que 30 000 patients avaient pu bénéficier de transplantation de cellules souches. Mais en fait, c'est un chiffre qui est valable pour les banques publiques et pas pour les banques privées. Donc effectivement, il y a un peu imposture sur ce qui est promis.
Petit intermède pour tenter de récapituler ce conte moderne que la vaste enquête de Sylvie Lejean a mis au jour. Premièrement, le stockage de cellules souches de sang de cordon dans les banques privées est en théorie un commerce très rentable, qui permet des marges financières pouvant aller jusqu'à 50%. On vous propose ainsi, pour 4000 francs suisses par exemple, de conserver les cellules souches de votre enfant pendant 25 ans. Deuxièmement, la banque privée de conservation de sang de cordon ombilical CryoSave AG a fait faillite en 2019 et son siège suisse ferme ses portes du jour au lendemain. Elle signe alors un contrat de sous-traitance avec la banque polonaise BBKM Famicord qui accueille les cuves d'échantillons a priori jusqu'en 2024, sachant qu'il en reste peut-être une partie dans un laboratoire au Portugal et qu'une cuve est par ailleurs conservée à titre de caution aux Pays-Bas pour un impayé de CryoSave. Mais ce n'est pas fini. Hesperit, la maison mère de CryoSave, est un fonds d'investissement domicilié aux Pays-Bas, qui se retrouve lui aussi en difficulté. Arrive alors Mirisov Capital à la rescousse, un fonds d'investissement de Dubaï qui rachète à Hesperit une partie des actifs de CryoSave et crée une filiale en Suisse, CSG Bio SA, afin de pouvoir opérer en Europe. Voilà, reprenons.
C'était en fait une histoire extrêmement complexe qui incluait à la fois des aspects émotionnels entre le désespoir des familles qui ne savaient pas pour certaines où étaient passés leurs échantillons. Et puis, des aspects de gestion financière désastreuse de la part de CryoSave, qui n'arrivait plus à un moment donné à payer ni les salaires des employés, ni les prestataires qui faisaient les transports en fait des échantillons entre les hôpitaux où étaient prélevés les échantillons et les lieux de stockage, ni les fournisseurs d'azote liquide en fait. Donc une entreprise qui était vraiment en grande difficulté financière. Et puis j'ai décidé de me rendre aussi en décembre 2019 en Pologne pour voir si effectivement les échantillons dont on disait qu'ils étaient situés là-bas étaient bien présents en Pologne. Et c'est là où on a pu se rendre compte avec le photographe avec lequel on était parti qu'effectivement PBKM Famicord avait bien réceptionné l'équivalent de 55 cuves contenant près de 12 000 échantillons chacune de cellules souches, ce qui faisait à peu près 630 000 unités de sang de cordon de famille de toute l'Europe. La société polonaise était... c'était compliqué pour eux parce qu'en fait, la base de données fournie par CryoSave ne correspondait pas forcément au nombre d'échantillons qu'ils avaient réceptionnés. Et à l'époque, il y avait environ 20 000 échantillons auxquels on ne pouvait pas affilier de famille. Donc c'était vraiment très compliqué et un peu chaotique, en fait. Donc, PBKM Famicord a donc accepté en fait de réceptionner l'intégralité des échantillons et de CryoSave. Pour une raison assez simple, qui a été évoquée par les dirigeants de Famicord, c'est qu'ils avaient peur, in fine, qu'en cas de perte des échantillons de cellules souches de CryoSave, qu'il y ait en fait un dégât d'image considérable sur l'entier de la branche. Et que, possiblement, on puisse tout simplement décider d'interdire la collecte et la conservation de cellules souches de sang de cordon par des entreprises privées. Ce qui a été très délicat dans cette affaire, c'était la question aussi de la base de données. Les dossiers médicaux ont fait l'objet en fait de tractations par le biais de plusieurs sociétés. Ces dossiers médicaux étaient d'abord chez CryoSave, ensuite ils ont été transférés chez PBKM aussi pour pouvoir faire l'inventaire des cellules souches, et ensuite ils ont été rachetés par une autre société qui s'est constituée à Genève, mais qui est de base la propriété de Mirisov Capital, qui est un fonds du Bayot, en fait. Et donc, cette société qui s'appelle CSG Bio a récupéré l'entier des coordonnées des familles, les bases de données, les dossiers médicaux, et ils ont en fait contacté, en cours d'enquête, toutes les familles pour leur proposer de rapatrier les échantillons en Suisse. Donc cette base de données est passée d'une société à l'autre sans que les familles ne soient forcément averties de ces mouvements.
Est-ce que vous pensez qu'on peut établir une filiation entre
Alexis Carrel, ce pionnier de son temps, et les premières greffes de cellules souches de sang de cordon dans les années 1980 en France ?
Conceptuellement, oui. Ne serait-ce parce qu'on a l'idée du vivant de synthèse chez Carrel.
Céline Chérissy.
À partir du moment, même s'il ne crée pas un vivant, quand on crée un vivant aujourd'hui, un objet vivant, on le crée à partir d'objets biologiques, d'ingrédients qui existent dans la nature. Quand Carrel prend des éléments, des tissus embryonnaires, quand il y ajoute ce qu'il appelle des tréphones, donc ces fameux éléments nutritifs, quand il utilise le plasma sanguin, il est très très proche de ce qu'on considère aujourd'hui comme la création d'un vivant. J'irais pas dire que Carrel fait de la biologie de synthèse, mais conceptuellement, il y a cette idée que le savant est capable, en prenant des ingrédients qui circulent dans l'organisme, de créer un vivant. Alors, est-ce qu'il passe pour... Alors, est-ce qu'il est dans l'esprit de son temps ? Il y a une continuité certaine avec Claude Bernard, mais Claude Bernard, c'était pas le plus... Sa femme a quand même divorcé parce qu'il disséquait trop de chiens dans la baignoire. Enfin, je veux dire, Claude Bernard, c'était quand même pas le savant le plus sage de son époque non plus. Donc, il y a une continuité à la fois avec Claude Bernard et en même temps, ce souhait de toujours aller plus loin. C'est un ami de Serge Voronoff quand même. Serge Voronoff, à l'époque de, au début du XXe siècle, donc à l'époque de Carrel, il greffait des testicules de singe sur des vieillards. Voilà. Alors, partant du principe que la greffe de testicules de singe allait permettre, c'est Tarzan, hein, c'est au niveau de l'imaginaire, hein, environnement post-darwinien, l'homme et le singe sont cousins, et donc, mais le singe est beaucoup plus costaud que l'humain, donc si on greffe des testicules de singe, alors les personnes âgées vont retrouver de la vivacité, de la vigueur physique, etc. Et donc Voronoff et Carrel sont amis, d'ailleurs Voronoff va rendre visite à Carrel à New York. Et quand il rentre, il y a une photo qui en atteste, quand il rentre dans le bureau de Carrel, il y a ces deux lévriers afghans, un noir et un blanc, et le noir a une patte blanche et le blanc a une patte noire. Ils sont de la même portée, ce qui est important quand même à savoir a posteriori. Et donc, il avait échangé les pattes de ses lévriers afghans et il les avait suturées, parce qu'il est auteur d'une technique de suture particulièrement fine qu'il a appris auprès d'une dentelière lyonnaise. Et donc, il a montré qu'on pouvait échanger les pattes de chien, connecter les terminaisons nerveuses et que les pattes des chiens soient encore fonctionnelles. Alors, niveau du savant fou, niveau de l'image du savant fou, c'est quand même quelqu'un qui a une image assez sulfureuse, dont on trouve des caricatures. Il y a une très célèbre caricature d'époque où on voit Alexis Carrel avec des chimères. Vous savez, des animaux dont on a greffé, il y a un canard avec une tête de chat, et puis il y a plein d'animaux chimériques, mais seulement ce ne sont pas des animaux surnaturels, c'est lui qui les a créés.
En ce moment, il y a une équipe de l'Université du Nouveau-Mexique qui est spécialisée dans la création de nanostructures qui cherche à concevoir ces fameux globules rouges artificiels. En fait, ils vont venir mouler...
Fanny Chambon.
Enfin, ils vont mouler le globule rouge naturel avec de la silice. Donc, c'est un espèce de composé chimique qu'on trouve notamment dans les minéraux. Donc, ils vont créer un moule et... Avec certains polymères, ils vont recréer une membrane. C'est complètement fou, je trouve. Et ces globules artificiels, ils ont les mêmes caractéristiques que les globules rouges naturels. Ils sont déformables pour s'adapter en fait, au vaisseau, à la taille et aussi aux intersections et... au virage des veines. Et ils peuvent donc transporter de l'hémoglobine, qui transporte de l'oxygène. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un module. Donc si on peut mettre de l'hémoglobine dedans, on peut mettre n'importe quoi d'autre. On pourrait mettre des médicaments, on pourrait mettre des détecteurs de maladies. En fait, ça peut devenir un vecteur pour plein de choses. Mais ce qui est le plus intéressant pour le sang synthétique, c'est que cette membrane-là, comme elle est artificielle, il y a à sa surface, il n'y a pas d'antigène. Il n'y a pas de groupe sanguin. Donc c'est universel.
le sang est un marqueur individuel, c'est un témoin discret, je dirais, de notre vie, de nos interactions avec l'environnement. Le sang va nous dire qu'un jour on a croisé tel virus, on a croisé telle bactérie, mais le sang c'est également un témoin d'humanité, puisqu'on peut retracer des évolutions anthropologiques. Et on peut retrouver aussi des marqueurs d'exposition d'une population générale à un environnement. Donc on peut faire dire beaucoup de choses au sang, sans aller sur la dimension génétique, oui.
Après, on se pose ces questions vis-à-vis du sang, peut-être plus vis-à-vis du sang que vis-à-vis d'autres choses, compte tenu aussi de la valeur symbolique que représente le sang. Hein.
C'est Jacques Chiaroni.
C'est vrai que... il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que, pourquoi on ne parle pas de ça pour le foie, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? On est encore dans une espèce de mythe construit autour du sang, ce qu'on comprend. Hein. Ce sang qui a un statut particulier par rapport aux autres tissus, hein, qui a une valeur symbolique qui est multiple, ambivalente. Vous savez, Jean-Bernard disait, vous savez ce que disait Jean-Bernard ? Le sang irrigue autant les tissus que les mythes. Donc, je trouve que c'est une belle phrase. Et à un moment donné, on parle du sang, mais on ne parle pas comme ça de nos tissus. Quoi. On ne va pas parler autant en 4 épisodes du foie ou de la rate.
Merci à Fanny Chambon, Sophie Chauveau, Céline Chérissy, Jacques Chiaroni, Bruno Danic, Eliane Gluckmann, Sylvie Lojean, Maëva Raffron et Jean-Baptiste Thibert. Merci également à Michel Cognier, ainsi qu'à Charlet Dubois et Géraldine Mallard pour leur aide. Prise de son, Nicolas Mathias et Florent Bujon. Mixage, Hervé Dubreuil. Documentation, Annelise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. Le sang de la veine. 4e épisode, Soigner, commercer. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Anne Fleury pour la série documentaire.